Voilà.
Yeah. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Nous sommes le 22 avril 1970 à New York. La circulation sur la 5e avenue est fermée. Des milliers de manifestants se sont rassemblés sous le slogan « Nous avons trouvé, l'ennemi c'est nous ». 20 millions d'Américains ce jour-là ont répondu à l'appel du sénateur Gaylord Nelson et d'un étudiant en droit, Dennis Hayes, pour dénoncer la dégradation de l'environnement qu'implique le capitalisme. C'était il y a 49 ans.
Nous avons au moins 100 000 personnes aujourd'hui. C'est un jeu qui est un début. C'est une planète où tout le monde est ensemble. Et si tout le monde meurt, quelle différence à Vietnam, quelle différence avec les gens noirs dans le ghetto? Tout le monde va mourir.
Quand je vois ceci, je vois le futur de la race humaine et aussi les jeunes. Je me sens plus optimiste. Mon impression, c'était que les jeunes étaient un peu ivres de leur jeunesse. Mais maintenant, je vois qu'aujourd'hui, que tout d'un coup, ils se sont maturisés. Ça vous ranime, n'est-ce pas, l'esprit?
Et 49 ans plus tard, il y a d'autres jeunes maturisés puisqu'un autre appel est lancé. C'est celui d'une jeune Suédoise de 16 ans, Greta Thunberg, en Pologne lors de la conférence des Nations Unies sur le climat. C'était en décembre dernier.
Beaucoup de gens disent que la Suède n'est qu'un petit pays et que ce que nous faisons n'a pas d'importance. Mais j'ai appris que l'on n'est jamais trop petit pour faire la différence. Et si quelques enfants peuvent faire les gros titres partout dans le monde simplement parce qu'ils ne vont pas à l'école, imaginez alors ce que nous pourrions faire ensemble si nous le voulions. Mais pour cela, nous devons parler clairement, même si ce n'est pas facile. Vous parlez de croissance économique verte et durable parce que vous avez peur d'être impopulaire. Vous parlez de poursuivre les mêmes idées qui nous ont mis dans cette situation, alors que la seule réaction logique serait de tirer le frein à main. Vous n'êtes pas assez mature pour dire les choses comme elles sont. Même ce fardeau, vous le laissez à nous, les enfants. Mais je me moque d'être populaire. Je tiens à la justice climatique et à une planète vivante. Notre civilisation est sacrifiée pour permettre à une petite poignée de gens de continuer à gagner d'énormes sommes d'argent. Notre biosphère est sacrifiée pour que des personnes riches dans des pays comme le mien puissent vivre dans le luxe.
Et depuis le mois d'août, Greta Thunberg est assise tous les vendredis devant le Parlement à Stockholm, à côté de son panneau sur lequel elle a écrit « Grève scolaire pour le climat ». Elle exige que le gouvernement suédois réduise ses émissions de gaz à effet de serre, comme il s'y est engagé en signant l'accord de Paris. Alors Greta tweet, Greta crée une page Facebook et son engagement devient viral de l'Australie au Canada, en passant par le Japon, l'Europe et l'Afrique. Des dizaines de milliers d'étudiants limitent jusqu'à ce vendredi 15 mars. Aujourd'hui, première grève mondiale de la jeunesse pour le climat. Bonjour Wu Truong.
Oui, bonjour.
Vous êtes membre de Citoyens pour le climat. C'est l'un des collectifs qui a coordonné les manifestations en France aujourd'hui. Alors disons-le tout de suite aux auditeurs, on a enregistré cette émission en amont parce que tous ceux qui sont là dans ce studio sont très mobilisés sur cette manifestation aujourd'hui. Alors Greta Thunberg a tweeté, il y aura plus de 1000 manifestations dans plus de 100 pays. Enfin, on est à peu près à ces chiffres-là. C'est une mobilisation sans précédent pour la jeunesse. Les mobilisations sont partout aujourd'hui.
C'est incroyable quand même de voir qu'il y a autant de mobilisation dans tous les pays, que vraiment les jeunes s'approprient cette question et qui décident spontanément de prendre la place qui leur est juste, c'est-à-dire des prochaines personnes qui sont amenées à vivre avec les catastrophes climatiques en cours et qui se disent ben « moi aussi j'ai mon mot à dire ».
Et alors vous dites les jeunes comme si vous aviez 95 ans, comme si vous n'en faisiez pas partie, vous avez quel âge ?
J'ai 25 ans.
Voilà, donc vous êtes quand même encore jeune et depuis combien de temps vous êtes investi pour coordonner ce mouvement ?
C'est tout nouveau en fait, je me suis engagé pour la première fois En octobre, c'était la deuxième marche pour le climat en France, suite à la démission de Nicolas Hulot. C'était beaucoup plus par curiosité au début. Je me demandais ce que je pouvais faire pour œuvrer là-dedans. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à organiser des groupes villes, à organiser des groupes dans les pays et puis à faire émaner cette initiative avec les jeunes qu'on appelle Little Citizens for Climate, où des jeunes sont capables de prendre la parole, prendre leur place. On leur donne en fait la parole. Ils s'organisent et ils font des vidéos pédagogiques et ludiques sur le thème du climat. Et ils sont en lien avec des scientifiques et ils s'imprègnent du savoir et ils le redistribuent, comme on pourrait l'imaginer, dans un circuit court, et ils le redistribuent à d'autres jeunes.
Et ça concerne toutes les tranches d'âge, hein, de l'école primaire jusqu'aux étudiants.
Exactement. C'est vrai qu'on a pour l'instant un public qui va plus jusqu'aux 16 ans, mais Little Citizens for Climate, c'est vraiment place aux jeunes et... Organisez-vous, apprenez, échangez et construisez le monde de demain.
Alors, c'est pour Little Citizen for Climate que ça va jusqu'à 16 ans, mais après, il y a en effet les lycéens, les étudiants, c'est surtout eux que l'on voit d'ailleurs, et on comprend bien pourquoi, dans les manifestations
exactement
aujourd'hui. Alors, à vos côtés, il y a Nina Didon, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes en première S au lycée de Sevran, c'est près de Paris. Vous êtes membre de Youth for Climate. Alors, qu'est-ce que...
Non. Je suis membre de l'UNL.
Alors, l'UNL, qui est donc ?
Qui est un syndicat lycéen.
Syndicat lycéen. Oui. Et alors, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous engager ?
On s'est engagé dans un premier temps pour répondre à l'appel de Greta Thunberg. Et ça nous semblait très important pour nous. C'était une cause qui nous tenait vraiment à cœur. Parce qu'on voit que notre planète se détruit petit à petit et qu'on la détruit. Et il y a une question qui avait été posée à nos parents, à nos grands-parents. Que voulez-vous laisser comme terre à vos enfants ? Nous, aujourd'hui, on a 7 générations d'enfants et on ne sait toujours pas de quel monde on va hériter. Du coup, pour l'UNL, ça a été un combat qui lui tient très à cœur. Et on a créé une sphère, justement, pour régler le problème climatique.
Alors, créer une sphère, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'on s'est organisé en groupe. Mmh. Un groupe, du coup, de jeunes qui étaient intéressés. On fait des tracts, on essaie d'organiser des activités, des débats, des âgés. On a tout mis sur notre site. En fait, pour aider justement tous les lycéens qui voudraient s'organiser justement pour lutter pour le climat, en faveur du climat, pour les changements, pour les aider à s'organiser et pour qu'ils nous aident à notre tour en fait. Parce que je pense qu'on est tous égaux et qu'on doit tous se souder pour cette question-là.
Mais alors il faut convaincre les autres, est-ce que vous y arrivez par exemple ?
Sur le climat, c'est une question qui fait assez l'unanimité. Du coup, quand on va les voir, on ne va pas se présenter en disant « Bonjour, je suis un syndicat lycéen ». On va juste venir les voir en leur disant « Bonjour, notre planète va mal, on aimerait changer les choses ». Et en ça, qu'on soit de l'UNL ou de n'importe quel autre syndicat, de n'importe quelle autre partie, l'important maintenant, c'est la planète, c'est notre avenir. Je ne veux pas ne pas avoir d'avenir parce que je n'ai pas agi, parce que d'autres personnes n'ont pas agi avant moi. Aujourd'hui, on a le pouvoir de changer les choses. Et je pense que d'où on vient, qui on est... Nos choix politiques, ça ne change rien. L'important, c'est de s'unir maintenant.
Alors, qu'est-ce que vous faites ce vendredi ?
Eh bien, je vais aller manifester et j'aimerais bien organiser des activités dans les lycées. Je sais que le ministre de l'Éducation nationale a proposé des débats de 16h à 17h.
Oui, très récemment.
C'est-à-dire que les rectorats ont été au courant de cela lundi matin. J'ai pas eu de retour. Dans mon lycée, on n'a eu aucun retour et dans les lycées du 93 aussi. Aucun retour sur comment ça allait s'organiser, s'il allait vraiment se mettre en place. On ne sait toujours pas ce qui va être dit dans ces débats, si on aura des intervenants. Et ça nous affole parce que la seule réponse à toute cette mobilisation qu'on a eue depuis maintenant 5 semaines, depuis 5 semaines, les jeunes sortent, sèchent les cours pour aller manifester dans la rue. Ça a un coût. On doit rattraper nos cours, on a forcément des heures en moins, on a le bac à la fin de l'année. Pour d'autres, c'est le bac de français, pour d'autres, c'est le bac général, si je peux appeler ça comme ça. Mmh. Et la seule réponse qu'on a, c'est un débat pendant la manifestation. Alors l'UNL appelle aux jeunes de plutôt aller à la manifestation. C'est la première manifestation mondiale pour le climat. C'est la première fois que les jeunes du monde entier se mobilisent. Il ne faut pas rater ça. Si on pouvait faire les deux, faites les deux, mais allez majoritairement à la manifestation.
Bonjour Marie Toussaint.
Bonjour.
Vous êtes l'une des fondatrices de l'association Notre Affaire à Tous qui a déposé donc un recours contre l'État français pour inaction face au changement climatique. On va en parler tout à l'heure. Mais vous êtes beaucoup investie dans cette mobilisation des jeunes pour cette journée. Pourquoi c'est un moment important ?
Il y a une nouvelle génération qui dit « on n'a plus le temps d'attendre ». On a commencé l'émission avec les sons de 1970. C'était encore un moment où on pouvait changer de braquet. donner un coup au volant pour changer de direction. Aujourd'hui, on commence à être dans le mur. Il a fallu qu'on soit au pied du mur pour se mobiliser. Et cette nouvelle génération qui se lève, principalement des jeunes, mais finalement, il y a aussi des plus âgés qui prennent cette vision des jeunes. Elle dit, voilà ce que disait Greta Thunberg, quoi, faut qu'on arrête de foncer dans le mur. En fait, un autre monde est possible, on le sait. Et donc, arrêtez de nous raconter que vous agissez au mieux, que vous agissez au maximum. En fait, il est possible de créer un autre monde et c'est maintenant qu'il faut le faire. Et donc, c'est à vous, les adultes, de le faire. Et je crois que c'est assez important. Et effectivement, nous, on travaille aux côtés des jeunes pour les appuyer dans cette dynamique-là. Mais en tout cas, c'est eux qui sont en tête de cette mobilisation. C'est parti de Greta Thunberg, c'est parti aussi aux États-Unis des lycéens de This is Zero Hour. C'est en train de partir un peu partout, par des individus isolés, puis par des organisations. Et c'est un moment assez fantastique de l'histoire. Donc, on espère qu'il va vraiment changer la donne.
Et à Madagascar aussi, il y a du mouvement. Bonjour, Zohary Manana.
Bonjour, chers auditeurs.
Bonjour, vous êtes la responsable de Citoyens pour le climat à Madagascar et avec votre association, vous organisez une animation autour du thème de l'eau. Expliquez-nous ce que vous allez faire.
C'est l'association Jeunes Engagés et Unis pour une nation épanouie qui va organiser une action qui est en lien avec l'action mondiale du Citoyens pour le climat ce samedi. On va se focaliser sur comment on gère l'eau et comment aussi on la conserve. Donc, il y aura des jeux instructifs, il y aura aussi des animations autour du thème l'eau. Et on va sensibiliser les gens à travers des paintings et du drawing. Et aussi, on va interpeller les décideurs à travers les messages que les jeunes vont passer. Voilà ce qui va se passer.
Alors vous avez entendu les jeunes qui sont dans ce studio. Est-ce que vous avez l'impression qu'à Madagascar, autour de vous, il y a des jeunes qui sont mobilisés aussi avec les mêmes envies de changement et les mêmes inquiétudes ?
Oui. En fait, on travaille avec des jeunes, des structures locales, des jeunes qui sont basés ici à Madagascar. Et donc, on essaie de mobiliser les jeunes à travers ces associations. Par exemple, on travaille avec l'association Gasufop, on travaille avec l'association Youth First et aussi d'autres associations des jeunes qui sont crédibles et officielles ici à Madagascar. Et donc, c'est à travers ces structures qu'on mobilise les jeunes et on essaie de faire participer les jeunes à travers des jeux ainsi que des messages de plaidoyer.
Merci beaucoup Zohary Manana pour ce témoignage et rendez-vous donc pour ceux qui le souhaitent demain à l'hôtel Panorama à Tananarive. Autre pays, haute mobilisation, on file au Mali où il y a du mouvement. Bonjour Fousseni Traoré.
Bonjour Madame Anne.
Bonjour, vous êtes à Bamako, vous allez organiser un événement, alors vous aussi ce sera demain. Qu'est-ce que vous allez faire avec les jeunes de Bamako?
Oui Anne, tout d'abord permettez-moi de saluer l'ensemble de travers de la radio mondiale RFI. Nous les jeunes africains, plus précisément ceux du Mali, nous avons décidé d'entamer une grève en faveur du climat. Notamment ça sera pour le samedi 16 mars à 10h. À la place Cannes, en plein assez de la Fiabou, une marche pacifique et non violente et en faveur du climat. Nous sommes vraiment inquiétés pour le réchauffement climatique et c'est-à-dire mettre les autorités à leur place.
Et combien de jeunes sont mobilisés autour de vous?
Et bon, ici au Mali, nous sommes pas mal de jeunes, nous sommes à peu près une centaine. Parce qu'à chaque mouvement, à chaque sortie, nous avons de nouveaux adhérents. Donc, pour le match du samedi, nous estimons une 150 de personnes.
Très bien. Bah écoutez, rendez-vous donc pour ceux qui le souhaitent. À quel endroit à Bamako demain?
Oui, ce sera en plein ACI 10000 à la place Cannes. Et non loin de l'hôtel Radisson ainsi que de l'ambassade des États-Unis.
Très bien, bah écoutez, rendez-vous pris. Merci beaucoup Fousseni Traoré pour votre témoignage. Les professeurs aussi sont mobilisés, on en parle après une pause musicale.
On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de plein rayon de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées. Tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons caché. Des cieux embrigadés, tant de vies sacrifiées pour du cristal qui ronge. On voit des fumées hautes, des nuages possédés, des pluies oranges et mauves donnant d'affreux baisers. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons caché.
Dans C'est pas du vent sur RFI, nous parlons de la grève mondiale des jeunes qui se déroule aujourd'hui. Écoliers, collégiens, mais surtout lycéens et étudiants sont dans la rue pour dire à leur gouvernement leur colère face à leur inaction, alors que les conséquences de la dégradation de l'environnement hypothèquent leur avenir.
Salut.
Ce message s'adresse
aux jeunes,
étudiants,
lycéens,
aux profs,
aux actifs, aux vieux,
et puis
aux autres.
Tu as dû en entendre parler, la jeunesse se bouge pour le climat. Youth for Climate, tu connais?
La pionnière, c'est Greta, en Suède.
Et maintenant, tous les jeunes prennent le relais.
Dans le monde entier.
Aux États-Unis,
en Allemagne,
en Suisse,
en Belgique,
et à Nantes aussi.
Parce que bon, faire des études, c'est bien.
Mais si ça continue de grimper,
1 degré,
2 degrés,
3 degrés,
4 degrés...
Nos diplômes ne nous serviront pas à grand-chose.
Alors le 15 mars, on fait grève.
Et c'est pas une grève comme les autres,
c'est une grève mondiale.
Pour le futur.
Et on invite tout le monde
à en faire autant.
Pour que la voix des jeunes s'élève jusqu'à l'Élysée.
Oh les dirigeants, vous nous entendez?
Oh Manu!
Manu!
T'as entendu ce qu'a dit Greta?
Soyez à la hauteur de l'histoire.
Sinon l'histoire retiendra votre irresponsabilité.
Le 15 mars,
pour le climat,
tous en grève!
Et 1, et 2, et 3 degrés!
Ça chante presque dans le studio, les slogans sont connus. Alors plus de 1000 événements sont organisés aujourd'hui dans une centaine de pays et les professeurs aussi se sentent concernés par ce mouvement. Bonjour Jean de Sour. Vous faites partie du collectif Enseignants pour la Planète. Alors en quoi consiste ce collectif?
Alors c'est un collectif totalement horizontal, d'enseignants de la maternelle jusqu'à l'université, qui se mobilise sur le long terme, non pas seulement pour cette journée du 15 mars, pour interroger à la fois les contenus d'apprentissage, leur place autour des enjeux environnementaux, mais également les finalités de l'école. Que veut dire transmettre, apprendre, quel est le rôle de l'école dans cette société, mais également notre identité professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire être éducateur et quelle responsabilité qui nous est particulière vis-à-vis de la génération anthropocène. Nous sommes responsables de leur devenir intellectuel, mais également de leur destin social. Et aujourd'hui, nous avons envie de dire, nous refusons un Munich écologique. Nous sommes enseignants en France, mais partout sur la planète également, et c'est très important. Nous sommes une profession présente absolument partout, parmi les milieux les plus éduqués, partout sur la planète. Et donc, il y a un vivier immense de personnes prêtes à être mobilisés pour le climat. Et on dit, le 15, c'est la journée des jeunes. Il ne faut pas la voler. Nous sommes là en appui, en back-office. Mmh. On les soutient. Mais nous, on sera là tous les jours, comme on l'a toujours été, depuis la nuit des temps. Et on continuera.
Oui, enfin, vous dites, on est là tous les jours. Mais en même temps, vous avez quitté l'enseignement parce que vous aviez l'impression que, voilà, il n'y avait pas assez. Enfin, vous avez pris un autre biais, on va dire, puisqu'en 2014, vous avez créé un projet éducatif qui s'appelle Les Saventuriers pour justement mettre davantage de sciences dans l'école. Parce qu'aujourd'hui, tous les professeurs n'enseignent pas la dégradation de l'environnement, n'expliquent pas les changements climatiques.
Tout à fait.
Il y a quand même une difficulté à ce que ces messages passent et fassent partie réellement du programme.
Exactement. Alors, Saventuriers École de la Recherche, c'est un dispositif éducatif que j'ai cofondé avec François Tadilly au Centre de Recherche Interdisciplinaire en 2013. Et l'idée, c'est pas uniquement les sciences au terme de sciences exactes formelles, mais également les sciences humaines et sociales. Et l'idée, c'est de faire de l'éducation par la recherche. Aujourd'hui, nous pouvons pas imaginer la transmission des savoirs sans leur production et sans leur utilité sociale. Donc, et c'est autour de ces questions que Saventuriers sont nés. Et je dirais que la question environnementale met en lumière le manque de formation initiale comme continue des enseignants. Hier, c'était le numérique. Aujourd'hui, on va parler de l'environnement. Demain, je ne sais pas quelle crise va survenir ou quel défi. Et l'idée, c'est comment faire pour que les élèves qui sont avec nous, les étudiants, les jeunes, puissent développer des compétences critiques aujourd'hui. La créativité, travailler en collaboration, avoir une pensée critique, savoir conceptualiser, procéder avec méthode. Toutes ces compétences transversales sont indispensables.
Mais en même temps, on voit bien qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont avec nous, par exemple, n'attendent pas un inadidon. Vous n'avez pas attendu qu'un professeur vous explique qu'il fallait aller dans la rue pour lutter contre les changements climatiques.
Non, j'ai pas attendu ça, j'en ai pas eu besoin. À Sevran, on a un parc, notre parc naturel, le parc de la Poudrerie, et ils voulaient le supprimer pour faire une route. Or, c'est le parc dans lequel je passais toutes mes après-midi étant petite, et c'est un parc extrêmement important, parce que c'est une ville extrêmement bétonnée, et c'était notre poumon à nous, en fait. Et savoir qu'ils voulaient le détruire pour faire une route, ça nous a tous mobilisés, et ça a commencé du coup très jeune, je sais pas, je devais avoir 7-8 ans, et on a beaucoup milité pour ça, pour garder...
Avec vos parents ? En famille ?
Oui, en famille. Mmh. Toujours en famille.
Et du coup, oui, vous êtes tombée dedans un peu quand vous étiez petite, mais c'est vrai que vous comprenez peut-être ce que dit aussi Angeanne Sourd, c'est que ce n'est pas le cas de tous les jeunes.
Oui, complètement. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on est là, pour justement que tous les jeunes puissent savoir que c'est possible. Aujourd'hui, il n'y a pas un jeune, il y a une jeunesse qui se mobilise. Et c'est important de savoir que c'est accessible à tous et qu'on est là pour les aider de toute façon.
Parce que quand on parle de climat, ça paraît un peu compliqué parfois, les gaz à effet de serre, tout ça, on comprend pas tout.
Bah, quelque part, si, quand même. En fait, ça peut paraître compliqué comme ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on change pas les choses, et c'est ça qui est le plus important au final, c'est qu'il faut changer les choses, parce qu'on peut pas accepter que ça monte de plusieurs degrés.
Alors nous sommes en ligne avec Frédéric. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Alors vous êtes co-créateur de Prof en Transition. Alors c'est un collectif qui a été créé à l'automne, hein, comme on l'entend depuis le début de cette émission. Il y a beaucoup de collectifs qui ont été créés depuis l'automne. Alors ça s'est créé, votre collectif, sur Facebook et ça s'adresse à toute la francophonie. Hein. Combien de profs vous ont rejoint aujourd'hui ?
Bah écoutez, nous sommes près de 3000 membres aujourd'hui. 3000 membres enseignants qui, de la maternelle jusqu'aux universités évidemment, qui ont une répartition géographique étendue. C'est parti de France, depuis métropole jusqu'au dom-tom. Beaucoup de problématiques de nos collègues enseignants dans les dom-tom vis-à-vis des déchets notamment. Également l'ensemble des pays francophones du globe et un peu dans tous les pays via le réseau français langue étrangère, c'est-à-dire les collègues qui travaillent dans l'établissement français à l'étranger.
Alors vous dites ce qui est important, c'est que derrière un prof, il y a au moins 30 élèves.
Oui, l'idée c'est cet effet un petit peu boule de neige, c'est-à-dire l'idée de base c'est que fédérer un enseignant sur ses enseignements au développement durable, c'est toucher derrière les élèves qu'il a en face toute la journée. Tout à l'heure, j'entendais dans le slogan qui a été fait par les jeunes, d'être à la hauteur de l'histoire. Alors, si on refait un petit peu d'histoire, et qu'on cite Victor Hugo disait « Les enseignants sont les jardiniers de l'âme ». Et ça, c'est extrêmement important de prendre cette responsabilité. C'est-à-dire, un enseignant, c'est un passeur de savoir, c'est un semeur de graines. Alors, tous ceux qui font du potager savent que la graine met du temps à germer et à faire des fruits. J'entendais L'intervenante précédente parlait d'être dans la rue sans avoir eu l'intervention d'un professeur, et bien tant mieux. Aujourd'hui, les professeurs s'adressent à tous les élèves. C'est une éducation qui est nationale, qui est populaire. Et il s'agit d'éveiller le maximum d'enfants, d'élèves, depuis la maternelle, hein, via un émerveillement face à la nature, puis à des élèves plus âgés d'aller sur la discussion autour des problématiques. Il est évident que des lycéens, des étudiants puissent prendre leur responsabilité d'aller dans la rue, de demander des comptes. Sur Prof en Transition, on est parti sur l'idée de rester à parler entre enseignants sur fournir le maximum de ressources à nos collègues de façon à ce que tout le monde puisse s'engager dans cette journée du 15 mars de façon pédagogique.
Alors qu'est-ce que vous faites, vous, aujourd'hui, pour cette journée du 15 mars ?
Alors, on a, via notre plateforme Facebook, un espace d'échange et de discussion. On se rend compte que beaucoup de collègues sont isolés sur ces sujets-là. L'enseignement au développement durable est souvent associé à l'écologie. Et l'écologie est axée un peu de façon politique. Alors qu'il faut quand même rappeler que l'enseignement au développement durable fait partie intégrante de ce qui est demandé des instructions officielles. Donc déjà, on rassure nos collègues. Et on leur dit que ce qu'ils font est une formation à la citoyenneté. Et donc, qu'ils font dans la droite ligne de ce qui est demandé. Ensuite, on a beaucoup d'exemples de collègues qui ont réussi, via les ressources proposées, notamment le kit pédagogique climat qui a été monté en partenariat avec Little Citizen for Climate et Citoyens pour le Climat, ont réussi à se saisir de ces outils-là pour aller, parfois d'une initiative individuelle, fédérer les équipes pédagogiques, aller chercher des partenaires locaux, alors au niveau des mairies, au niveau des associations locales.
Il ne faut pas rester aussi, seul dans son coin, quoi. C'est ça l'idée. Il faut se fédérer tous ensemble et on l'entend bien. C'est ce que vous faites à travers votre collectif. Merci beaucoup pour votre témoignage. Oui, allez-y.
Tous les enseignants francophones qui sont motivés à construire avec nous une pédagogie du développement durable, de la solidarité. C'est extrêmement important d'associer ce terme au premier, à nous rejoindre pour que ensemble on puisse, surtout de façon transfrontalière, puisqu'on sait que les enjeux sont internationaux, nous aider à aller plus loin dans cette démarche. Merci à vous.
Merci à vous. Allez, on fait une petite pause musicale et après on se demande si finalement toute cette mobilisation des professeurs, des jeunes, aujourd'hui, donc mobilisation massive, est-ce que ce sera suffisant ? Est-ce que ça sert réellement à quelque chose ? On en parle juste après une petite pause musicale.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Des questions, des réactions ? Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission.
Depuis la maternelle, j'entends parler d'effet de serre. La maîtresse nous disait penser à éteindre les lumières. C'est mieux pour la planète si on devient tous responsables. Alors faites attention, ne gaspillez pas l'eau potable. Et puis en grandissant, j'ai remarqué que les grands magasins, toute la nuit durant, laissaient allumer leurs vitrines. C'est peut-être que leurs gérants ne sont pas éco-citoyens, ou bien qu'ils sont sûrement en overdose de caféine.
C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique, qui nous harcèle. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique, qui nous harcèle.
Mon prof éco disait le chômage est une évidence. Pour être compétitif, rien ne vaut quelques licenciements. Tu sais, le capitaliste fait pas dans les bons sentiments. J'ai lu 2-3 bouquins pour mieux comprendre l'économie. Des envies, des synthèses, la guerre ou la consommation. Chômeur consommateur, est-ce la bonne alchimie? Ou peut-être que la croissance n'est pas la bonne appellation?
Que la croissance n'est pas la bonne appellation.
C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique, qui nous harcèle. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique, qui nous harcèle.
nous tweete, le réchauffement n'existe pas.
Il faut prendre des mesures pour préserver cette planète.
Alors faites-nous confiance, on va trouver la bonne recette. Mais est-ce que la croissance peut devenir écologique?
Tandis que sa terre fond, l'ours polaire survit aux zoos.
On voit des pétroliers rêver de migration arctique.
Se frayer un chemin entre ces continents nouveaux.
C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle.
Il n'y a pas d'âme dans C'est pas du vent sur RFI. Nous parlons de la grève mondiale des jeunes qui se déroule aujourd'hui. Plus de 1000 actions organisées sur tous les continents, dans une centaine de pays. Mais dans quel but finalement? Alors Marie Toussaint, vous venez de publier avec l'association Notre Affaire à Tous un manifeste qui s'appelle « Comment nous allons sauver le monde ?» Manifeste pour une justice climatique aux éditions Masso. Et cela nous a fait penser à un autre manifeste, celui publié en 2010 par l'ancien résistant et diplomate français Stéphane Hessel, que nous avions reçu à ce moment. Bon, là, je vous propose de l'écouter.
Aujourd'hui, contre quoi faut-il se montrer résistant? Qu'est-ce qui indigne la jeune génération? Celui qui a aujourd'hui l'âge que j'avais en 1940. Aujourd'hui, il me semble qu'une chose est terriblement impossible à accepter, c'est l'écart croissant entre les très riches et les très pauvres. L'injustice sociale. L'autre, aussi important, c'est de s'apercevoir que nous faisons du mal à la planète et que nous le faisons depuis pas mal de temps, que de génération en génération, nous avons exploité, surexploité les ressources et que cela nous met devant un défi évident. Il faut faire quelque chose, c'est un des combats qui, à mon avis, incombe à la jeune génération et à laquelle elle est d'autant mieux préparée qu'elle connaît mieux ce qui se passe dans le monde que nous ne le connaissions à leur âge. Là, le progrès de la communication, de l'Internet, la jeune génération les comprend et s'en sert avec avantage, ça c'est une chose qui doit lui permettre d'être efficace dans le combat contre ce qui la scandalise, ce qu'elle veut changer.
Comment réagissez-vous à ces propos de Stéphane Hessel, Nina Didon ?
C'est exactement ça. C'est sûr que maintenant, on a une jeunesse qui a besoin de changer les choses pour elle-même et qui est très au courant de ce qui se passe et de ce qui va se passer. C'est sûr que quand on voit certains chiffres, ça nous affole totalement. De savoir qu'en 2050, on aura plus de plastique que de poissons dans la mer, par exemple. Que 100 des plus grosses compagnies seront responsables de 70% des émissions de carbone, ou alors que les prévisions annoncent des canicules de 45 degrés en France. Tout ça, ça nous terrifie, parce que c'est ce qu'on ne connaît pas, tout ça, et c'est forcément mauvais. Tout le monde nous répète qu'il faut avoir des études, avoir son bac, faire des études après le bac, réussir sa vie, avoir une famille, enfin, ce genre de choses, mais à quoi bon tout ça si au final, dans pas si longtemps que ça, on n'aura plus de planète sur quoi vivre, plus d'avenir en fait.
Donc c'est ça qui vous met en mouvement. Basile Le Retaille nous a rejoint, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes en ligne depuis Grenoble dans le sud-est de la France. Vous êtes ambassadeur de Little Citizens for Climate qui regroupe les plus jeunes. On en parlait tout à l'heure avec Botrung. Comment est-ce que vous réagissez, vous, à ces propos de Stéphane Hessel?
Je pense que il a raison, etc. Après, je pense qu'on ne pourra pas le faire tout seul, parce que les adultes nous aident pour changer.
Enfin, vous comptez sur vous-même, puisque vous êtes, alors je le précise, en terminale S, vous vous mobilisez par vous-même, vous sensibilisez les jeunes qui sont autour de vous, et en cette journée du 15 mars, vous manifestez, vous êtes dans la rue.
Oui, bien sûr. Et oui, du coup, c'est vrai que je suis aussi actif dans plusieurs associations, donc j'essaie de prendre mes en main, mais je pense qu'on a besoin des adultes et de tous, en fait, pour que tout le monde réveille et comprenne que c'est une urgence.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager, vous, personnellement?
Bah moi, ce qui m'a donné envie de m'engager, c'est d'abord mon amour pour la nature. En fait. J'aime beaucoup la nature depuis que je suis petit. Et voir la biodiversité s'écrouler, ça me touche beaucoup. Et après, je pouvais donner un déclic, ce serait une vidéo d'Aurélien Barreau que j'ai vue en septembre. Et elle m'a profondément choqué. Je me suis dit qu'il fallait que je me bouge aussi. Donc je me suis engagé sur un citoyen pour le climat à Grenoble. Et du coup, j'aide à organiser les marches régulièrement.
Marie Toussaint, dans votre manifeste, qui est un vrai appel au passage à l'action, hein, vous écrivez « Nous sommes une nouvelle génération, la génération du climat. À nous, d'où que nous soyons, quel que soit notre âge, d'être cette fois du bon côté de l'histoire. » Ce n'est donc pas une question d'âge ?
C'est à la fois une question d'âge, une vraie question d'âge, dans le sens où c'est la peine de Stéphane Hessel, quoi. La génération actuelle a un défi qui est celui de la survie. Rien que ça. Donc c'est sûr que c'est différent par rapport aux générations précédentes, mais à la fois c'est une génération de pensée. Dans ce manifeste, on n'appelle pas seulement la jeunesse à se mobiliser, on appelle tout le monde. Et c'est peut-être ça le sens profond de notre message, c'est que quel que soit l'endroit où l'on soit, on est en capacité de changer les choses, de changer la donne. Ce qui est assez important aujourd'hui, c'est le changement d'échelle. Avant, on était quelques-uns à lancer l'alerte, à essayer de sensibiliser, à proposer des solutions, à construire des alternatives. Aujourd'hui, on est vraiment très nombreux. Ça s'est vu en France avec les mobilisations, mais aussi évidemment avec l'affaire du siècle. Mais ça se voit un peu partout dans le monde comme ça, où il y a de plus en plus de citoyens qui se mobilisent. Et en fait, on a ici le manifeste du réveil écologique des étudiants des grandes écoles qui refusent d'aller travailler sur pour les pollueurs. Mais on coupe l'herbe sous le pied, on enlève le fioul humain de ces grands pollueurs, ils ne vont plus pouvoir continuer à polluer s'ils n'ont plus de ressources humaines. Les lycéens qui font la grève, c'est un vrai engagement personnel qui met en risque leurs propres études. Et il y a de plus en plus de mouvements, Extinction Rebellion, Alternativa, depuis plus longtemps, qui font aussi des actions de désobéissance non violente. Chacun, là où on a une capacité d'appuyer sur ce bouton. Et c'est aussi ça qu'on veut lancer, c'est un cri d'alerte avec ce manifeste, mais aussi un cri d'espoir. En fait, si on se tient ensemble les uns avec les autres, si on est solidaires les uns des autres, eh ben, on va pouvoir appuyer sur ce bouton-là, à la fois agir à notre niveau, agir en collectif, mais aussi pousser ceux qui polluent aujourd'hui, donc à la fois les pollueurs en tant que tels, les firmes dont parlait Nina tout à l'heure, les financeurs, les banques qui leur donnent de l'argent pour pouvoir continuer à polluer, et les États qui donnent parfois aussi souvent de l'argent, et surtout qui laissent faire, à bouger, à changer. Et c'est ça, c'est le cri qu'on lance, et si on se met tous ensemble les uns avec les autres, eh ben on va pouvoir réussir à appuyer sur ces adversaires-là, ces ennemis, ces climaticides,
oui,
pour pouvoir sauver la planète.
Oui, alors c'est sûr qu'il y a du boulot, hein, parce que cette semaine, à l'occasion du grand débat national qui se déroule en France, Emmanuel Macron a répondu déjà à des jeunes qui l'interpellaient sur l'urgence d'agir face à la dégradation de l'environnement. Extrait.
Je m'appelle Charlie, je suis un élève du collège de Saint-André-les-Alpes et je voudrais savoir qu'est-ce que vous entendez par écologie, puisque encore aujourd'hui, des usines peuvent déverser leurs déchets dans la mer, des pesticides polluent nos sols et donc notre alimentation. En Europe, 20 000 tonnes de déchets électroniques sont envoyées au Nigeria et les déchets plastiques envahissent nos océans et notre planète. Quand est-ce que vous allez réagir ? Vous en avez le pouvoir.
Charlie, tu m'as dit vous avez le pouvoir d'en sortir du jour au lendemain. Vous avez le pouvoir sur les pays. Non, pas totalement. Moi, si je dis, par exemple, demain en France, plus un pesticide, ce qui est quasiment impossible, parce que d'abord, aujourd'hui, notre agriculture, elle en utilise, y compris dans le bio. Hein. Je ne peux pas du jour au lendemain dire tout le monde passe d'un modèle à l'autre. C'est impossible. Est-ce que je peux aller plus vite dans la sortie des émissions de CO2 ? Oui. Et donc là, on a commencé, mais il faut aller plus fort sur ce sujet. Mais je ne peux pas, de là où je suis seul, dire c'est 0 ou 100 du jour au lendemain. Parce que simplement, nous-mêmes, on dépend d'autres pays, parce qu'on a une vie économique, parce qu'il y a des tas de familles qui vivent aussi aujourd'hui de ça. Et donc, c'est pour ça que ce qu'on doit faire, c'est une transition. Une transition, c'est le passage d'un modèle à l'autre.
Alors, quand vous entendez ces propos d'Emmanuel Macron ou Autruong, qu'est-ce que vous attendez finalement de cette journée de mobilisation ?
De cette journée de mobilisation, on entend des engagements forts. On attend aussi que les décisions qui soient prises par le gouvernement soient aussi appuyées par les experts. En soi, dans ces éléments de langage, Emmanuel Macron et François de Rugy, etc., ils savent très bien que le système démocratique dans lequel est plutôt lent. Et en même temps, l'urgence est là et vraiment, on attend des engagements forts, des actes concrets et des actes qui sont appuyés par les grands consensus scientifiques.
Mais c'est quoi des actes concrets ? Parce qu'on a démarré cette émission, Nina Didon ou Marie Toussaint, je ne sais pas, une manifestation qui a eu lieu il y a 49 ans et qui attendait aussi de la part des gouvernements des actes concrets. Mmh. 49 ans plus tard, on est toujours dans la même situation. L'urgence de la dégradation de l'environnement a pris une ampleur
valeur extrêmement importante. Et puis quoi ? Alors, est-ce que finalement, marcher, se mobiliser comme ça, c'est pas toujours attendre des autorités qui n'ont pas la capacité, comme on l'entend, de finalement vraiment changer les choses, de bouger ?
Ce qui est incroyable, c'est que Emmanuel Macron et le reste des membres de son gouvernement et beaucoup de dirigeants sur notre planète disent « Mais attendez, on fait déjà tout ce qu'on peut. »
Ben oui.
Et donnez-nous le temps, et de toute façon c'est la faute des entreprises, c'est la faute des citoyens, tout ça. En fait, les gens qui marchent, ils font pas que marcher. Ils ont commencé à trier leurs déchets, à changer de mode de transport, à fermer leur robinet, à éteindre leur lumière.
Oui, mais
ils ont
ça
commencé à aller
pas,
dans les
AMAP.
Petits gestes. Et en fait, si chacun, si chaque citoyen agit dans sa vie quotidienne, on n'arrivera pas à changer le système. Pourquoi ? Parce que les émissions de gaz à effet de serre, elles viennent du secteur pétrolier, du secteur des énergies fossiles, parce que les pesticides, elles viennent d'un modèle industriel et d'agriculture industrielle qui pèse sur les petits paysans et n'aide que les gros. Et en fait, c'est possible d'agir pour la justice sociale et pour l'environnement. Il est faux et il est hypocrite de nous opposer. Et par ailleurs, s'il veut vraiment agir pour la planète, plutôt que de repousser les objectifs comme il le fait aujourd'hui, en disant « je n'y arriverai pas pour 2020, je n'y arriverai pas pour 2030, mais vous inquiétez pas, on va tout faire pour 2050 », on ne sait pas où il sera en 2050. Mais en fait, c'est maintenant qu'il faut qu'on renverse la courbe. Le GIEC a dit « il faut avoir un pic d'émissions en 2020 », c'est ça qu'on attend de sa part. Et Emmanuel Macron, comme les autres dirigeants du monde, peuvent dire au secteur pétrolier « maintenant vous allez payer vos impôts. Total Échelle ne paye pas leurs impôts aujourd'hui en Europe. Ils peuvent dire, vous allez vous mettre sur une trajectoire de l'accord de Paris et on va laisser les énergies fossiles sous le sol. C'est les États, le secteur public qui peut dire ça aujourd'hui. Et ce qui est révoltant, et ce contre quoi toutes les populations du monde se révoltent aujourd'hui, c'est cet écart entre des discours qui sont des discours prometteurs et des actes qui sont en dessous de tout.
Et voilà pourquoi vous concluez votre manifeste en disant, nous savons qui détient la richesse et qui pollue. Nous savons leur nom et ceux de leur filiale, nous connaissons les chiffres, la concentration a au moins l'avantage de nous désigner clairement l'ennemi. Nous sommes non-violents, mais nous saurons boycotter leurs produits et leurs enseignes, nous irons manifester là où siège leur pouvoir, nous irons nous accrocher à leurs grilles, nous irons hurler aux portes de leurs réunions. Et vous concluez par « nous deviendrons leur cauchemar, puisqu'ils ne nous laissent pas le temps de rêver, nous fonderons notre bonheur sur le combat ». Alors là, on s'éloigne de la transition en douceur dont parlait Emmanuel Macron. Nina Didon, vous êtes prête à faire tout ça ?
Oui, complètement. Ça fait plusieurs années maintenant que les gouvernements nous font des promesses, plusieurs années qu'ils ne les tiennent pas, plusieurs années que les choses n'avancent pas. On dirait qu'on recule même. Et nous, maintenant, jeunesse, on vaut mieux que leur profit. On a envie de dire aussi qu'il faut arrêter de nous parler d'économie, mais de nous parler d'écologie. L'économie, on aura tout le temps pour ça. L'écologie, on ne sait pas. Et c'est maintenant qu'il faut agir. Pas demain, pas après-demain, pas pour 2020, 2030 ou 2050, il sera peut-être déjà trop tard. Maintenant déjà, on est à la limite. Et ça, il faut que tout le monde le comprenne, on est vraiment à la limite. On parlait tout à l'heure des années 70. Déjà en 70, on avait ce sentiment d'urgence. Mais on est en 2019 maintenant, et les choses n'ont pas changé, c'est complètement dingue. Et du coup, il faut que nous, jeunesse, nous, alors qu'on doit préparer notre avenir, comme nous le disent tous les adultes qu'on rencontre, il faut que nous, on sache les coups et qu'on aille manifester dehors, parce que justement, les dirigeants des pays ne font rien. Nous, ce qu'on attend, ce sont des vrais changements. On en a marre des promesses, on veut des actions. S'ils n'ont pas d'idées, nous, on a des revendications. Il faut consulter les experts. Il y a plein de choses à faire, des choses qui peuvent être simples, qui sont peut-être des choses les plus simples ou choses les plus compliquées à mettre en place.
Alors, par exemple.
Les choses les plus simples, par exemple dans les lycées, on pourrait tous installer Ecosia sur les ordinateurs.
Il y a un moteur de recherche qui permet de planter des arbres quand on recherche
sur
Internet.
C'est tout simple à faire. Et toutes les recherches qu'on fait à partir des postes des lycées, tout le nombre d'ordinateurs dans les lycées, si on fait tout ça, au final c'est sûr qu'on peut arriver à faire quelque chose de grand. On a plein de revendications sur l'UNL, d'ailleurs on en a fait pas mal quand on devait faire les tracts. Et peut-être que ce sera difficile à mettre en place. Peut-être qu'on ne l'aura pas demain. Mais on veut que ce soit mis en place parce qu'on en a besoin.
Mais vous sentez que chez les jeunes qui vous entourent et ceux avec lesquels vous bougez en ce moment, il y a cette envie de radicalisation qui est la conclusion du manifeste de notre affaire à tous. Il y a ce potentiel d'aller sur les grilles.
Ah oui, complètement. Ah bah pour l'UNL, oui, on sera peut-être les premiers à être enchaînés d'ailleurs. Mais complètement, parce que si on ne le fait pas maintenant, et si on le fait demain, est-ce qu'il ne sera pas trop tard pour le faire ? Est-ce qu'on ne regrettera pas de ne pas l'avoir fait ?
Mo Turong, est-ce que vous sentez ça chez les jeunes qui vous entourent ?
En fait, à mesure que le gouvernement restera silencieux et inactif, il y a forcément une tentation à la radicalisation qui va émerger. Et en même temps, je me dis que il y a encore, on n'a pas encore recruté suffisamment et on a encore besoin de rassembler toutes les personnes qui ne sont pas encore sensibilisées, qui ne sont pas du tout touchées par le message transition écologique et développement durable. Et il faut vraiment que tous les modes d'action en complémentarité touchent toutes les émotions possibles, toutes les sensibilités possibles, la rationalité, l'émotif. Et chacun pourra trouver sa façon de s'engager de cette manière.
En Jean de Sourd, vous sentez cette radicalité qui monte ?
Pas du tout. Ça dépend de la bulle dans laquelle on se trouve. Il y a des Extinction Rebellion, etc. Une radicalité qui reste quand même pacifique, non violente. Il y a également beaucoup d'indifférence dans certaines autres sphères. Mais ce à quoi je pense, ce sont deux choses. Premièrement, la mission de l'école, notamment en France, c'est quand même de maintenir un certain esprit des Lumières. De réflexivité, d'esprit critique. Et ça, il ne faut jamais le lâcher.
Oui, parce que on l'entend bien chez les jeunes.
Non, parce qu'on est tous d'accord sur le constat. Je ne suis pas certaine qu'il y ait un consensus large sur les leviers d'action. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui apprendre aux jeunes, quelle que soit leur conviction. C'est comment débattre pour arriver à des consensus démocratiques. Deuxième chose, on est sur RFI. Ça me fait penser à Cheikh Imam, un chanteur égyptien qui luttait beaucoup pour les libertés et qui disait... Réfléchis, remue tes méninges. Qui parmi nous gouverne les autres et qui parmi nous mange les autres? Et c'est ce que j'ai envie de dire aux enfants. Remuez toujours vos méninges, réfléchissez, lisez, conceptualisez et regardez qui gouverne qui.
Marie Toussaint, vous avez déposé un recours face à l'État français pour inaction climatique. C'était hier. Là aussi, vous en attendez quelque chose rapidement pour terminer cette émission?
Les associations porteuses de l'affaire du siècle ont déposé un recours.
Oui, donc il y a l'affaire du siècle, il y a Oxfam, il y a Greenpeace et il y a la Fondation Nicolas Hulot.
Voilà, exactement. On déposait le recours pour inaction climatique contre l'État français. Ce qu'on a souligné déjà à plusieurs reprises, mais c'est que l'État ne tient pas ses propres engagements. Et on sait que l'État français n'a pas adopté une politique climatique qui permet de respecter l'accord de Paris. Donc il y a un double problème. Non seulement on a des objectifs trop bas, mais en plus on ne les tient pas. Et donc ce qu'on attend de l'État aujourd'hui, c'est qu'il agisse, qu'il rattrape son retard et qu'il le rattrape dès maintenant et donc pas après 2030 comme ce que nous répond le gouvernement aujourd'hui.
Donc on le voit bien en tout cas, les pressions se multiplient de toutes parts, même si elles ne sont pas encore assez larges. On l'a bien entendu dans cette émission, la mobilisation est là, reste à savoir si elle sera entendue et quelle forme elle va prendre si sa colère, la colère de la rue n'est pas traduite en actes par les gouvernements. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation et à vous pour votre fidélité. Il y a une vie après l'émission, faites-nous connaître vos engagements, retrouvez nos invités en vidéo sur les réseaux sociaux. Réagissez à leurs propos, nous serons ravis de vous lire. En attendant, prenez soin de vous et des vôtres. Et à la semaine prochaine, même planète, même heure.